Manu. Cette semaine, Virginie Bloch-Lenné rencontre Xavier Emmanuelli. Ce soir, évolution des questions éthiques. Bonsoir Xavier Emmanuelli.
Bonsoir.
Cette semaine, nous avons pu entendre à quel point l'éthique était liée à votre carrière professionnelle. Depuis votre départ du gouvernement en 1997, depuis votre démission du SAMU social en 2011, ça nous n'en avons pas parlé, mais vous avez quitté le SAMU social en 2011, les enjeux éthiques se sont modifiés. Il a été beaucoup question ces dernières années de la fin de vie, en même temps que de la procréation médicale assistée. Et en ce moment, il est beaucoup question de la prise en charge de la santé des migrants. Mi-octobre, le Comité consultatif national d'éthique a rendu un avis disant qu'il n'y avait aucun danger pour le système de santé en place à prendre en charge la santé des migrants. Vous suivez ça de près ?
Oui. Oui, oui. Inutile de vous dire que c'est plus compliqué que ça.
Oui.
Par quoi voulez-vous que je commence ?
On peut commencer par la façon dont vous avez suivi les lois bioéthiques et puis cette progression de la fin de vie à la PMA,
PMA. Il y a précisément, on est aux frontières des définitions du phénomène humain. Éthique, oui, mais le mystère de votre présence au monde n'est pas résolu pour autant. Est-ce que, comme je vous le disais l'autre jour, c'est quoi une personne? Est-ce que c'est un organisme? C'est une mécanique. Et quand on a vu le point de vue mécanique d'un être humain, on a fait d'immenses progrès en médecine. Et on a fait une avancée, on sortait de la sorcellerie, de la métaphysique, et ça a été une immense avancée. Oui, mais c'était pas la fin. Parce que on a oublié le statut d'être humain, c'est quand même de venir au monde, de grandir, d'avoir accès au monde, de se diminuer et disparaître. On est des entités qui doivent mourir. Tout le monde. Il n'y a pas d'exception. Il faut prendre ça en charge et donc on est tout de suite dans une dimension transcendante. C'est quoi vivre et mourir? Et c'est quoi le sens? On est au cœur du problème là. On est éthique, mais on est aussi dans la morale kantienne. On dit, c'est au nom de quoi que tu fais ça? C'est très difficile de se dépatouiller avec ça. Mais chaque fois que je fais un acte, j'engage pas que moi. Chaque homme est le représentant de toute l'humanité. J'en veux pour preuve l'exemple que je donne toujours. Un homme est en perdition dans la montagne. On le sait, après la tempête. Tout le monde sait qu'il est en extrême danger. Alors on trouve tout à fait normal de mobiliser des hélicoptères au péril de la vie des pilotes, des équipes de secours. On y va, le mec est en danger. Et l'homme en danger représente le statut de tous les hommes. On y va, on le sauve, on le ramène et on s'aperçoit que c'est un gangster, un pédophile qui a tué des enfants. Et donc il est sur les deux définitions. Représentant de tous les hommes, et avec une place dans la société humaine. On est à cheval sur les deux. Et voilà, je me dis, je suis réanimateur, je réanime, je n'ai pas d'autre finalité. C'est pas à moi de me poser question. Fallait se la poser avant. Mais moi, je suis à l'extrémité de la chaîne. Et donc, je n'ai pas. Je regarde en fonction du matériel que j'ai, en fonction de ces d'autres principes. Qu'est-ce qui a le plus de chance? Des fois, c'est le vieux par rapport au jeune, par rapport à la machine que j'ai. Donc, c'est des problèmes d'ordre technique, pas d'ordre éthique. Et donc, c'est facile, un réanimateur. Mais qu'est-ce que c'est que l'acharnement thérapeutique? C'est un mauvais mot, d'ailleurs. L'acharnement thérapeutique, c'est où vous êtes dans une limite. Ce que vous faites, ça m'engage moi, ça engage toute l'humanité. Mes gestes. C'est ça la dimension de ma responsabilité. La mort d'un homme, c'est quel qu'il soit. C'est un gâchis effroyable, irréversible, pour un médecin réanimateur. Donc, moi, j'ai été élevé comme ça, par mon patron. Et parce qu'il analysait aussi nos nuits. C'est un vrai maître. Et Acharnement, ça veut dire une obstination abrutie, sans réfléchir, de procédure. Oui, vous êtes dans des procédures, mais vous n'êtes pas que dans des procédures. C'est à vous de voir et de prendre vos gestes, quoi, ce que vous avez à faire. C'est énorme. C'est pas désinvolte de faire disparaître quelqu'un ou de le prolonger. Je vous dis, je ne le savais pas d'avance, hein, moi. Et c'est pas sûr qu'ici, où on est, ils le savent bien.
Au SAMU. Nous sommes au SAMU de Paris.
Oui. D'autre part, si on s'était pas acharné de faire de la réanimation, ben, on n'aurait pas fait tous ces prodiges qu'on peut faire. Donc, on n'a jamais baissé les bras et donc on est des réanimateurs. Mais jusqu'où on va réanimer? Qu'est-ce que c'est que la vie que je vais donner? Moi, je me rappelle, une réanimation que je détestais, c'est la néonatale. À l'époque, je détestais parce que j'aimais pas ça, quoi. Vous avez des instruments minuscules, des petites veines qu'il faut aller chercher. Mais les réanimateurs, nous... Je me rappelle les spina bifida, c'était la moelle non finie. Vous réanimez quoi? Et au nom de quoi? Est-ce que vous avez le droit d'arrêter? Est-ce que vous avez le droit de... Ça pose des problèmes, c'est pas simple à régler. Donc, ça vous envoie à votre responsabilité. Jean Leonetti, il a été réanimateur cardiaque. Il a fait les procédures là. Didier Sicard, le comité d'éthique, il nous guide, ils nous disent pas. Ils disent, on veut faire de l'euthanasie, mais allez-y, euthanasier. C'est si facile. La mort d'un homme, ça prend une dimension, c'est un poids, quoi, considérable.
Et alors la loi Leonetti, Xavier Emmanuel, qu'est-ce que vous en pensez?
Elle est bien équilibrée. On voit que c'est quelqu'un qui y a pensé, Leonetti. Il dit, mais faites dormir. Il dit pas tuer. Il dit empêcher la douleur. Mon maître disait, bon, les gens sont à bout de course. Enfin, il faut donner eau, gaz et électricité. C'est-à-dire, ne meurt pas de soif, perfusion. Gaz, donner un petit peu d'oxygène, laissez pas s'étouffer. Électricité, mettez un peu de sucre. C'est le minimum. Et puis, antidouleur, et puis les nettoyez-le. C'est pour ça que quand on dit il y a des affaires, des gens qui sont autonomes, est-ce que vous allez les priver de bouffer, de boire? C'est des supplices, ça. Vous empêchez, vous faites dormir, et vous empêchez. Il y a une nuance. Vous dites, pauvre hypocrite, vous êtes en train de dire, faites-le dormir en appuyant un petit peu sur votre seringue, et vous les tuez. Non, non. Non, non. On est aux limites du sens. Et donc, tout ça, c'est des bêtises. De même, quand j'entends le droit de mourir de la dignité, je grimpe au rideau. C'est quoi la dignité? Un corps est digne ou pas digne? C'est quoi quand on a du caca partout? Un corps qui est supur, c'est indigne, ça? Un bébé qui naît dans la merde et dans le pipi, il est indigne ou indigne? Il ne faut pas charrier. La dignité, c'est une étude morale. Morale. Et ça ne s'applique pas, là. C'est parce qu'on a des canons de la beauté, que ça, c'est digne, pas digne. Et c'est vrai qu'on présente... toutes les femmes, c'est des canons, tous les mecs, c'est des Rambo, et tous les vieillards qu'on vous représente... c'est des vieillards vénérables, vous savez, qui coupent du saucisson. Si on n'est pas comme ça, on n'est pas digne. Donc, si vous voulez, il y a un langage. Et il faut toujours se battre pour le langage. Il faut exiger. Que veut dire vos mots? Qu'est-ce que vous entendez par exclusion? Qui est exclu? Qu'est-ce que c'est que la dignité? Donc, il faut se battre pour dire, comme disait Camus, les choses mal nommées ajoutent à la souffrance du monde. Donc, il faut bien nommer, correctement nommer. Autrement, vous allez vers toutes les catastrophes. La dignité, l'acharnement, toutes ces bêtises. Vous avez le poids de l'humanité dans vos mains. Ça vous donne une conscience de ce que vous êtes. Alors, après la PMA, nous y voilà. Alors, si vous me demandez... alors, vous êtes contre l'avortement? Je suis pour et contre.
Alors, oui. C'est amusant que vous arriviez à ça, Xavier Emmanuel, parce que la PMA, c'est la procréation.
Mais je vais arriver, puisque c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait du corps. Est-ce que le corps est une chose? Il y a une lettre prodigieuse d'un grand psychiatre, Henriet, qui écrit à Simone Veil quand elle a permis l'avortement. C'est l'article 20, c'était plus... Il dit, bon, il l'admirait, comme moi d'ailleurs. Il dit, vous avez ôté du crime ce qui est un malheur. Et donc, vous voyez, le malheur, vous êtes obligé d'avorter. Sans ça, vous avez des septicémies à Père Fragès et des jeunes femmes meurent. J'en ai vu mourir, moi, à l'époque. Et vous ne dites jamais ça. Évidemment, ça vous déchire le cœur de dire que la pauvre fille est obligée de faire. Donc, si vous voulez, c'est pas clair. La PMA, c'est quand même chosifier son corps. Après.
Tout, vous diriez ça, Xavier Emmanuelli, de tout dans la PMA, c'est-à-dire à la fois des fécondations in vitro.
Mais non, je dis pas ça. Je veux dire, c'est toujours. Je vous parle de responsabilité.
Oui.
Vous pouvez pas généraliser. C'est précisément ce qui arrive. Ce qui arrive avec les procédures. Après, vous faites de la dentelle. Vous avez des garde-fous, bien sûr. Et après, cas par cas. Un médecin ne soigne qu'un homme à la fois, avec son histoire. Et la gestation pour autrui, c'est quoi, ça? Moi, j'ai vu, plein d'enfants, en Égypte, partout, avec leur cicatrice oblique, comme ça, ils avaient vendu un rein pour 1000 euros qu'ils ont distribué à leurs copains. Mais c'est à eux et pas à eux. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Il y a toujours de l'offre et de la demande. Avant, au Bangladesh, quand j'étais là-bas, le sens vendait. Alors, il y avait des types faméliques qui vendaient maintenant des produits sanguins. C'est un don gratuit. Mais il faut faire gaffe, quoi. On n'est pas des choses. Et on est toujours sur le versant entre la chosification qui a permis de faire des progrès considérables et la dimension étrange et mystérieuse, cosmique, de qu'est-ce que c'est qu'un homme. Et donc, il faut réfléchir où vous êtes. Et vous êtes dans les deux. Et ça, et quand vous êtes médecin, vous montez la garde au bord de ça. Et c'est à vous de savoir, de peser sur... puisque vous ne l'avez pas demandé, mais que je vous explique. Toutes ces nuits, Dréa, vous êtes en train de vous battre aux frontières des gens qui ont usé toutes leurs cartes. Les gens ne mourraient pas à 100%. 75% des gens s'en sortaient, mais il y avait 25%. Jeunes, vieux, femmes, enfants. Et vous êtes là, qu'est-ce que je fais comme boulot? Et c'est quoi? Bien sûr que le sens vous monte. Et vous êtes obligé de penser qu'est-ce que c'est que la transcendance? Est-ce que Dieu existe? Ça ne se manifeste pas comme ça. D'ailleurs, dire Dieu, c'est un blasphème. Parce que c'est réduire l'immensité de la question et du mystère à dire Dieu, c'est brader, il ne faut pas le dire. Mais c'est quoi la question que vous rencontrez? Et donc vous êtes toujours au bord d'un abîme, et c'est à vous, et vous êtes donné le privilège de marcher au bord de l'abîme. C'est un privilège, mais en même temps, c'est une initiation, vous voyez. Moi, ce que j'ai compris de la vie, c'est que... Vous êtes devant des questions, devant des épreuves. Vous franchissez ou franchissez pas. Vous avez le droit, vous n'êtes pas un héros constitutionnel. Vous devenez un homme d'expérience. Et vous avez une idée sur ce que vous valez. Moi, je pense que... Je pense, mais vous ne devrez pas se livrer comme ça. C'est que on est plutôt agi qu'agissant.
Vous pensiez ça au début?
Non,
parce que vous n'étiez pas croyant, Xavier Emmanuelli, au jeune médecin.
Ah non, et puis je trouvais que c'était détestable en plus. Des gens qui se réfugiaient dans leur superstition.
Mais alors, c'est venu pendant les années en service de réanimation?
C'est venu tout doucement. Mais j'ai pas eu mon chemin de Damas, c'est bête. Non, c'est petit à petit, c'est la souffrance qui vous amène ça. C'est la frustration. C'est de dire, ça m'a échappé, ça. Et c'est tous vos manques. Mais c'est quoi qui se passait là? Qu'est-ce que j'ai vu? Donc vous voyez, c'est des questions qu'on ne peut pas poser en public et je ne les poserai pas.
Alors juste une question, à votre connaissance, Xavier Emmanuelli, est-ce que c'est arrivé à plusieurs médecins?
Oui. Mais vous savez comment y répondent mes copains réanimateurs? À part de prendre des tranquillisants sous forme de whisky, mais ça, c'est... les soirs de ras-le-bol. Les questions comme ils sont restés rigides, ils sont devenus psychiatres. Les questions, qu'est-ce que c'est que le psychisme et comment on se débrouille, beaucoup de camarades ont pris cette option. Moi, je suis resté dans l'incertitude. Psychiatres, je les avais rencontrés, bon, d'accord, j'ai lu. Et c'est devenu, c'est mon interrogation maintenant. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce que... Je dirais comme Jung, vous verrez, au fur et à mesure que vous m'interrogez, je reviens toujours à Jung. On lui disait, il est mort dans les années 60, et son interview à BBC, c'était 54. Il y a le journaliste qui lui demande, bah alors professeur, est-ce que vous êtes croyant ? Comme il était très loyal, des croyants, tout ce que je peux vous dire, c'est que je sais. On ne peut pas dire que c'est une croyance. C'est une connaissance de la dimension transcendante. Mais c'est, j'ai rien à dire là-dessus. C'est mystérieux, mais c'est un homme a une dimension. Personne ne saura jamais quelle est cette dimension. Mais moi, je sais très bien que les gens, depuis le début de leur enfance, disent, ils le disent avec leur bouche, mais ils le disent avec leur corps, ils le disent avec leur comportement, je veux être aimé. Je veux être aimé parce que je suis un petit garçon tout mignon. Je veux être aimé parce que ma maman m'adore. Je veux être aimé parce que je suis un bel adolescent. Je veux être aimé parce que je suis un homme costaud, vigoureux et un politique. Je veux être aimé parce que je suis malade, parce que je suis handicapé. Je veux être aimé parce que je vais mourir. Aime-moi. Et les gens disent ça. Aime-moi. Et c'est un grand mystère. Au nom de quoi ? Aime-moi parce que je suis au monde. Et pas faire le curé, hein, je veux dire, c'est ce que j'ai remarqué. Alors après, ils demandent tellement à être aimés qu'ils sont très emmerdants.
Plus tout le monde.
Et après, on tombe dans la maltraitance. Tu veux être aimé, arrête de m'emmerder. C'est la vieille qui n'arrête pas d'appeler. Elle crie tout le temps, elle appelle, on va te l'attacher. On tombe dans la maltraitance. C'est un paradoxe. Non, je rigole, bien sûr.
Quoique.
Aime-moi. C'est pas une dimension, ça ? Vous avez des réponses, vous ? J'en ai pas. Non. Mais c'est... Je sais que les enfants des rues que je vois à travers le monde, ils poussent. Ah, ils poussent comme l'herbe, ils poussent comme des champignons, quoi, comme des fleurs. Mais sans amour, ils poussent de travers. Rappelez-vous, les enfants de Roumanie, on parle des orphelinats, c'était même pas des orphelinats, c'était... Moi, j'ai été avec MSF à la mort de Ceausescu. C'était dans des endroits où on avait parqué les... Mais ils étaient hors du monde, parce qu'on les appelait les orphelins. Parce que c'est des mères qui avaient... Et quand vous rentrez dans ces espaces, ces mouroirs, ces garages, je ne sais pas comment l'appeler, les enfants, ça puait la pisse, enfin, c'est comme dans une fauverie. Les enfants n'étaient jamais appelés par leur nom, ils étaient anonymes. Parce que, mais ils n'avaient pas de puéricultrice, pas d'infirmière, pas de... Les autorités, c'était des filles, savent élever des veaux pour élever des petits humains, quand même. Ils nourrissaient, ils étaient le cul nu, parce que, bon, on va pas interdire les couches, tout ça. Et donc, avec une éponge, on les nettoyait. Et ils n'étaient pas aimés, donc ils n'existaient pas. Ils se balançaient comme ça, à l'hospitalisme. De temps en temps, vous entendiez ici ou là un petit cri de souris. D'enfants non aimés. Là, ils poussaient. Ils sont devenus fous, quoi. Ils étaient longtemps dans les rues de Bucarest. Et je suis sûr et certain, mais c'est ça le mystère, que les gens pour pousser, les enfants pour pousser, ils ont besoin d'amour. Les gens que je voyais dans les rues de Paris, c'était des êtres incomplets. Ils avaient été de famille d'accueil en famille d'accueil. Ils avaient été battus, violés, que sais-je. Et donc, leur corps et l'unité de leur psychisme ne s'étaient pas faites. Donc, c'est irrattrapable. Toutes ces années où on n'a pas été aimé, qu'est-ce que vous voulez en faire ? Et donc, c'est ces gens... Une des clés, c'est de les regarder, de faire attention, d'avoir du respect, quoi.
Xavier Emmanueli, vous avez des commentaires à faire sur la vie rendue mi-octobre par le comité consultatif d'éthique sur l'accueil des migrants?
Les migrants, il y en a pour 5 générations, ceux qu'on appelle les migrants. Toujours question de vocabulaire. C'est quoi les migrants? C'est des demandeurs d'asile? C'est des réfugiés politiques? C'est des exilés? Donc pour le moment, on appelle les migrants. Ça veut dire qu'on les sort de la vie commune. On n'a pas trouvé des vocabulaires. Or, il n'y a que des cas particuliers. Ceux qui viennent de Syrie, ceux qui viennent du Soudan, ceux qui viennent d'Érythrée. Alors ceux-là, c'est des réfugiés. Alors, c'est demandeurs d'asile. Ils ne veulent peut-être pas avoir un asile en France. Ils voulaient aller jusqu'en Angleterre. Vous savez, la mentalité Maginot. La ligne Maginot, c'est celle qu'on avait fait. C'était la stratégie militaire, c'est d'avoir, qui datait de 14-18, des tranchées. On s'est dit, oui, mais si on fait des murs, les Allemands et les Italiens ne passeront pas. Donc on a fait des murs, des fortifications défensives. Qu'est-ce qu'a fait Guderian, général allemand? Il passait par les Ardennes, pas là où on l'attendait pas. Mettre des murs, ça sert à rien. Vous en avez partout des murs. En Hongrie, vous en avez au Zimbabwe, vous en Afrique du Sud, vous en avez partout. Partout. Ça ne sert à rien. On n'a pas défini, il n'y a pas de concept sur les migrants. C'est tout et rien. C'est surtout des fantasmes. Les migrants, c'est des uns. Mais migrer, c'est le propre de l'homme. Si on n'est pas migré, on sera encore dans la savane en Afrique. Mais un jour, on a migré. Un étudiant qui va passer un an à Londres, migrant. Donc, si vous voulez, de quoi on parle? Les gens qui viennent d'Irak, ils n'avaient qu'à pas casser leur pays. Les gens qui viennent de Libye, ils n'avaient qu'à pas de bombarder. Les gens qui viennent d'Afghanistan, mais c'est quand même l'Occident qui a été. Alors, on voulait qu'ils restent là. On a cassé le dictateur, on en a mis des pires, parce que la nature horreur du vide. Et puis on dit, ils migrent, ils n'ont qu'à rester chez eux. Attendez, il y a une dynamique qui s'est mise en route. Et puis, on dit oui, mais c'est des réfugiés économiques. Ah oui, le paysan qui creuse la terre pour faire pousser son blé, avec le commerce international, il va au marché, son blé, qui a toute sa peine, ça vaut 10 fois ou 3 fois le prix du blé international. Qu'est-ce qu'il veut qu'il fasse? Il s'en va et quitte sa terre qui avait nourri toutes des générations entières. C'est quoi un migrant? C'est le mouvement qui vous amène dans les villes. C'est interpellé. Moi, mes enfants des rues, les enfants de Bamako, on les retrouve à Dakar. Il y a longtemps qu'ils ont migré. Ceux, vous n'avez qu'à regarder au Mali, au Congo, ceux de Kinshasa, ils sont déjà à Brazzaville. Il n'y a pas de frontière pour des gens qui veulent vivre. Donc, les migrants, il faut bien analyser le problème. Il y a 30 000 personnes qui sont mortes, noyées, depuis l'an 2000. Bon, 30 000 personnes, qu'est-ce que c'est ces statistiques? Ah oui, attendez, si vous faites des camps propres, vous faites un phénomène d'appel. Non, mais attendez, de qui on se fout? Les gens qui ont pris tous les risques, mais ils s'en foutent, qu'ils soient propres, pas propres. Ils veulent vivre, ils amènent leurs enfants. Et donc c'est un phénomène, en plus, médiatique. Les gens fuient la guerre, mais ils fuient aussi la rumeur de la guerre. Quand on dit, par exemple, Alep, on rappelle Alep. C'est juste le quartier Est qui était bombardé, encore c'était les djihadistes. Mais le monde entier disait Alep, ce salaud de Bachar el-Assad. Il y a une rumeur autour de ça. Parce que on est dans un monde de médias, si vous voulez, c'est des images. On est dans le monde de l'image. Et il y a la guerre, la rumeur de la guerre. Il y a aussi on est accompagné de ça. Et donc, je vais vous dire, le monde entier est sur les routes. Il va falloir trouver quelque chose. Il va falloir travailler un peu. Arrêter la paresseuse idée qu'il suffit de mettre des camps, que des barbelés qui renvoient chez eux. Il va falloir aller un peu plus loin. C'est un phénomène qui nous remet en question. C'est vrai que nos sociétés vont profondément changer. Je ne dis pas d'accueillir tous les migrants. Je dis savoir qui on va accueillir. Il frappe à nos portes, c'est vrai. Et je crois qu'il faut être un peu généreux, mais faire un triage. Dans un afflux soudain et de victimes sur un champ de bataille, qu'est-ce que vous faites quand vous avez un petit poste de secours comme ça? Ben, vous faites un triage d'amont. Et je vous rappelle Ellis Island, aux États-Unis. Il y a 30 ou 40 millions de gens qui sont venus d'Europe et qui ont fait la vigueur des États-Unis. Mais ils ont trié, hein. Ils ont trié, mais des fois, je ne sais pas pourquoi, ça ne leur plaisait pas d'avoir des Chinois. Ça leur plaisait d'avoir des gens qui pourraient être à la charge de la société. Ça leur plaisait pas d'avoir des tuberculeux. Alors, Ellis Island, on les appelait aussi l'île aux pleurs. Il faut réfléchir, être pragmatique. Être généreux, mais pragmatique. Pour le moment, je vois rien, moi, de tout ça.
Donc, Xavier Emmanuelli, est-ce que vous aimeriez, ou ce serait un cadeau empoisonné, être actuellement secrétaire d'État
aux migrants?
Oui.
Ça se passera pas. Donc, je vis tranquille. Oui, bien sûr que c'est un boulot colossal. Il faut avoir l'audace de dire précisément de quoi il s'agit, de ne pas se contenter de pensées paresseuses médiatiques. La vie est plus compliquée que ça. De temps en temps, vous avez des sursauts quand vous voyez le petit échouer comme une épave. Alors là, votre cœur se serre. Mais ils sont combien qui n'ont pas eu la chance d'être sous une caméra? On est à un moment clé, les sociétés basculent. Est-ce que c'est une richesse ou c'est la fin du monde, les migrants? Le monde est sur les routes. On peut vraiment régler le problème, je le crois, on peut vraiment régler le problème. À condition de s'y mettre loyalement. On a les moyens en Europe, qu'est-ce que c'est que de prendre 1 million de migrants, il faut les appeler comme ça, dans des espaces. Il y a des tas de petites communes, ça leur ferait bien leur affaire s'il y avait une, deux familles, pas leur infliger, mais les enfants iraient à l'école, les artisans pourraient avoir une aide, les vieux dans la solitude pourraient être aidés. Moi, Dieu merci, je suis pas aux affaires. J'ai simplement cette rage qu'on laisse pas les gens devenir des objets. Et bon, ben voilà.
Merci Xavier Emmanuelli pour ces entretiens. Bonsoir.
Bonsoir.
Cette rencontre de Virginie Bloch-Lenné avec Xavier Emmanuelli. À voix nue, réalisation Clotilde Pivin, prise de son Frédéric Kérou, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.